Bienvenue à nouveau dans votre voyage à travers le magnifique Palais Pitti. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette seconde partie de notre audioguide, proposée par YouTour. Dans cette visite, nous explorerons trois sections fascinantes du palais, offrant chacune une perspective unique sur l'histoire, l'art et la culture. Tout d'abord, nous entrerons dans le musée de la mode et du costume, où des siècles de style et de savoir-faire prennent vie à travers des vêtements, accessoires et textiles exquis. Cette collection ne se limite pas à la mode, elle reflète l'évolution des sociétés, l'expression artistique et les idéaux de beauté et de statut à travers le temps. Ensuite, nous découvrirons la galerie d'art moderne, située aux étages supérieurs du palais. Nous plongerons dans l'art italien de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle, où l'élégance néoclassique, le romantisme et l'essor des courants artistiques modernes occupent le devant de la scène. Enfin, nous dévoilerons la splendeur du trésor des grands-ducs, aussi connu sous le nom de musée de l'argenterie. Cette collection présente des joyaux éblouissants, des objets décoratifs et des trésors précieux ayant appartenu aux dynasties régnantes de Florence, notamment les Médicis et les Lorraine. Chacun de ces musées détient une part unique de l'histoire, nous permettant de remonter le temps et de revivre le luxe, la créativité et l'innovation qui ont façonné la culture européenne. Merci encore d'avoir choisi YouTour pour votre visite du Palais Pitti. Nous espérons que vous apprécierez cette expérience tandis que nous débutons la première section de notre visite, le musée de la mode et du costume. C'est parti! En entrant dans la première salle du musée de la mode et du costume, vous êtes immédiatement transporté dans une époque clé de l'histoire de la mode, la transition du néoclassicisme à la Restauration. Cette période, qui s'étend de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle, reflète non seulement l'évolution des goûts esthétiques, mais aussi les profonds bouleversements sociaux, politiques et culturels. À la fin du XVIIIe siècle, la mode néoclassique apparaît en réaction aux styles extravagants et ornés de la période rococo. Inspirée par la redécouverte de l'art antique grec et romain, cette esthétique prône la pureté, la simplicité et la beauté naturelle. Les robes féminines deviennent éthérées et fluides, avec une taille haute juste sous la poitrine, caractéristique de la silhouette empire. Confectionnées en tissu léger comme la mousseline, la soie ou la gaze, elles épousent élégamment le corps, rappelant les tuniques des statues antiques. Les teintes pastel, surtout le blanc, sont privilégiées car elles symbolisent la vertu, le raffinement et un rejet des excès de l'Ancien Régime. Cependant, cette simplicité ne se fait pas sans raffinement. Des ourlets brodés, de la dentelle délicate et des motifs floraux ou antiques ajoutent une touche sophistiquée à ces tenues. Les accessoires jouent un rôle essentiel dans l'élégance de l'époque, long châle diaphane inspiré des drapés antiques, gants délicats et sandales de style gréco-romain complètent la silhouette. Les coiffures suivent aussi cette influence classique, les femmes arrangent leurs cheveux en boucles souples ou en chignons élaborés rappelant les sculptures antiques, agrémentées de bandeaux, diadèmes ou perles. Chez les hommes, la mode connaît également une transformation radicale. Les vestes en soie brodées et culottes du XVIIIe siècle cèdent progressivement la place à un style plus sobre et élégant, influencé par la mode anglaise. L'apparition de la redingote, du gilet et du pantalon définit peu à peu la silhouette masculine du siècle à venir. Les couleurs sombres et discrètes gagnent en popularité, mettant en avant la retenue plutôt que l'ostentation. Le cravate, ancêtre de la cravate moderne, devient un accessoire incontournable, souvent noué de manière sophistiquée pour refléter l'élégance du porteur. Mais en entrant dans le XIXe siècle et la période de la Restauration, la mode évolue à nouveau, reflétant les bouleversements politiques et sociaux provoqués par la chute de Napoléon et le retour des monarchies européennes. Avec la restauration des Bourbons en France et le rétablissement du pouvoir aristocratique à travers l'Europe, l'habillement redevient un moyen d'affirmer statut et tradition. L'élégante simplicité du style empire laisse peu à peu place à une esthétique plus structurée et ornée. Chez les femmes, le corset fait un retour marqué, sculptant à nouveau le corps en une silhouette en sablier. Les jupes s'alourdissent et gagnent en volume, souvent composées de plusieurs couches de tissu, de plis complexes et de riches ornements. Les manches s'élargissent considérablement, notamment dans le style gigot ou jambe de mouton, caractérisé par des épaules bouffantes spectaculaires qui se resserrent au poignet. Les tissus luxueux comme le velours, le brocart et la soie épaisse remplacent les muselines légères de l'époque précédente, tandis que les couleurs sombres et profondes, rouge intense, vert émeraude et bleu royaux, symbolisent richesse et prestige. La mode masculine retrouve également une grande formalité. La redingote ajustée reste incontournable, mais les coupes deviennent plus nettes, les revers plus larges et les ornements plus travaillés. Les gilets se parent de broderies raffinées ou de motifs sophistiqués, tandis que les cravates adoptent des nouages de plus en plus complexes, parfois amidonnés pour créer des formes presque sculpturales. La figure du dandy émerge, avec des hommes comme Beau Brummel, légendaire arbitre de l'élégance anglaise, prônant une mode parfaitement taillée et discrètement raffinée. Son influence ancre l'importance de la coupe impeccable, du soin apporté à la toilette et d'une sophistication maîtrisée dans l'habillement masculin. Cette salle illustre magnifiquement une époque où l'habit ne se limitait pas à couvrir le corps, mais devenait une affirmation d'identité, d'idéologie et de position sociale. En observant les pièces exposées, attardez-vous sur les moindres détails, les broderies minutieuses, les ornements cousus à la main et les textiles somptueux qui témoignent d'un savoir-faire exceptionnel. Chaque vêtement raconte l'histoire de ceux qui l'ont porté, des idéaux qu'ils incarnaient et du monde dans lequel ils évoluaient. À présent, poursuivons notre voyage à travers les évolutions stylistiques. L'opulence de la période de la Restauration laissera bientôt place aux tendances romantiques et théâtrales du milieu du XIXe siècle. Continuons notre exploration de la mode. En pénétrant dans la salle suivante du musée de la mode et du costume, vous plongez aussitôt dans l'univers du romantisme, une époque où la mode s'imprègne de passion, d'émotion et d'une individualité exaltée. S'étendant du début au milieu du XIXe siècle, cette période est fortement influencée par le mouvement romantique, qui célèbre la nature, l'histoire et l'expression personnelle. Les vêtements deviennent plus extravagants, les silhouettes plus audacieuses et les ornements plus sophistiqués, traduisant un engouement pour la narration, la nostalgie historique et l'identité nationale. Chez les femmes, la mode romantique se distingue par une silhouette exagérée, des manches volumineuses, une taille fine marquée par le corset et des jupes amples qui accentuent une élégance délicate. Les manches gigots ou jambes de mouton, apparues timidement dans les années 1820, atteignent des proportions impressionnantes dans les années 1830. Ces manches bouffantes, spectaculaires, contrastent avec les corsets étroitement lacés, accentuant l'opposition entre le buste et la taille. Les jupes s'élargissent, ornées de volants, de ruchers et de broderies, créant un effet théâtral et très ornementé. Les tissus de l'ère romantique reflètent cet amour du détail raffiné. La soie, le satin et le velours sont des choix privilégiés, souvent teintés de couleurs profondes et dramatiques comme le bordeaux, le bleu saphir ou le vert forêt. Les motifs jouent aussi un rôle clé, fleurs délicates, dentelles complexes et brocarts apportent texture et richesse visuelle. Les accessoires deviennent des éléments essentiels de la tenue féminine, bonnets ornés de rubans et de fleurs, longs gants élégants et réticules perlés, petits sacs à main, complètent le style. Les coiffures suivent cette tendance, composées de tresses élaborées et de boucles soignées, parfois rehaussées de perles ou de peignes décoratifs. Chez les hommes, bien que moins extravagants, l'habillement reflète aussi l'esprit romantique. La redingote ajustée reste une pièce phare, tandis que les gilets se parent de broderies raffinées et de tissus luxueux. Les cravates sont nouées en formes volumineuses et sculpturales, soulignant une élégance poétique et raffinée. L'ensemble crée une allure à la fois noble et mélancolique, rappelant les héros tourmentés de la littérature romantique. La figure du dandy, gentleman raffiné attaché à l'élégance et au bon goût, devient un symbole de cette époque, incarnant l'esprit romantique à travers une coupe impeccable et un style théâtral. À mesure que la période romantique évolue vers le milieu du XIXe siècle, la mode adopte un caractère plus nationaliste, notamment en Italie, où les mouvements politiques façonnent l'avenir du pays. Cela nous mène à une phase essentielle de l'histoire vestimentaire, l'unification italienne. Le Risorgimento, ou unification de l'Italie, n'est pas seulement un mouvement politique, il se reflète aussi dans la mode. Le vêtement devient un symbole de fierté nationale et joue un rôle dans la consolidation d'une identité italienne. L'influence des uniformes militaires devient plus marquée, notamment dans la mode masculine. Vestes d'inspiration militaire, épaulettes et coupes structurées se répandent, tandis que les figures héroïques du Risorgimento, comme Giuseppe Garibaldi, deviennent des icônes culturelles. L'un des vêtements les plus emblématiques de cette époque est la chemise Garibaldi, une chemise rouge en laine portée par Garibaldi et ses soldats. Ce vêtement simple mais audacieux devient un symbole de l'esprit révolutionnaire et de la résistance, influençant peu à peu la mode civile. Les femmes, elles aussi, adoptent des styles patriotiques en intégrant les couleurs du drapeau italien vert, blanc et rouge dans leurs tenues, que ce soit à travers la broderie, les rubans ou les accessoires. Au-delà de son symbolisme, la mode devient aussi plus fonctionnelle à cette période. L'industrialisation permet la production en masse de textiles, rendant les vêtements élégants plus accessibles à un plus large public. L'invention de la machine à coudre révolutionne la confection, rendant possible des détails plus sophistiqués tout en réduisant le temps de fabrication. Le corset rigide et les jupes volumineuses de l'époque romantique évoluent vers un style plus structuré mais plus pratique, annonçant les robes à crinoline qui domineront la seconde moitié du siècle. En parcourant cette salle, observez attentivement les vêtements exposés, admirez les broderies cousues à la main, la richesse des textures du velours et de la soie, et ses subtils mais puissants témoignages des changements sociaux et politiques de l'époque. Chaque détail raconte une histoire, qu'il s'agisse de la dentelle délicate d'une robe romantique ou de la coupe audacieuse d'une chemise Garibaldi, deux vêtements qui traduisent les passions, les idéaux et les aspirations d'un siècle en pleine transformation. À présent, avançons vers une nouvelle métamorphose du style, alors que l'Italie entre pleinement dans la modernité, le progrès industriel et une mode plus structurée et opulente. Continuons notre exploration fascinante de l'histoire du costume. En avançant dans le musée de la mode et du costume, vous entrez dans une période de transformation saisissante, les années 1870 et 1880. C'est une époque de progrès industriel, de raffinement social et de changements stylistiques marquants. Les silhouettes volumineuses du milieu du 19e siècle évoluent vers des formes plus structurées, influencées par l'industrialisation croissante, les innovations textiles et une société de plus en plus moderne et cosmopolite. Dans les années 1870, l'un des éléments les plus emblématiques de la mode féminine est le tournure, une structure rembourrée placée sous la jupe à l'arrière pour créer un effet de volume accentué. Contrairement aux crinolines circulaires des décennies précédentes, qui élargissaient la silhouette de façon uniforme, la tournure repousse le volume vers l'arrière, donnant à la silhouette une allure plus allongée et sculpturale. Cette forme exagère la silhouette en sablier, avec une jupe volumineuse équilibrée par une taille corsetée et un corsage ajusté. Les robes deviennent plus près du corps, ornées de drapés complexes, de plis sophistiqués et de détails décoratifs comme des nœuds, des franges et des broderies raffinées tombant en cascade dans le dos. L'élégance et la structure priment, avec des couleurs riches et profondes telles que le vert émeraude, le rouge rubis et le bleu saphir. Pour les tenues de soirée, les robes se déclinent en tissus luxueux comme le taffetas de soie, le satin et le velours, souvent rehaussés de broderies perlées ou d'applications de dentelle. Les cols hauts et les manches longues restent en vogue pour la journée, tandis que les robes du soir dévoilent les épaules ou présentent des décolletés élégants, mettant en valeur des finitions délicates. Les accessoires complètent l'ensemble, longs gants, éventails ornés de plumes et chapeaux élaborés décorés de fleurs, rubans et parfois même d'oiseaux naturalisés. La mode masculine des années 1870 et 1880 reste fidèle à une esthétique structurée et raffinée, avec des redingotes ajustées, des gilets élégants et le morning coat, veste coupée plus courte à l'avant et se prolongeant en longue basque à l'arrière. Le costume trois pièces, composé d'une veste, d'un pantalon et d'un gilet assorti, s'impose comme un incontournable de l'élégance masculine, jetant les bases de la mode masculine moderne. Le chapeau est un accessoire essentiel, le haut de forme reste un symbole de distinction, tandis que le chapeau melon gagne en popularité auprès des classes moyennes et ouvrières. En avançant vers la section dédiée à la belle époque, vous entrez dans une ère de glamour, d'extravagance et de raffinement artistique sans précédent. De la fin des années 1890 au début des années 1910, la belle époque est une période de progrès technologique et culturel fulgurant. L'électricité, les transports en commun et l'essor des loisirs transforment la société, et la mode atteint un nouveau sommet d'opulence et de créativité, notamment au sein de l'élite. La mode féminine de la belle époque est dominée par la silhouette en S, inspirée de l'idéal de la Gibson Girl, qui met en avant un buste arrondi, une taille fine et des hanches légèrement cambrées. Cet effet est obtenu grâce au corset en S-bend, qui pousse la poitrine vers l'avant et bascule les hanches en arrière, accentuant la posture féminine. Les jupes sont longues et fluides, souvent prolongées par de somptueuses traînes, tandis que les chemisiers affichent des cols montants, des détails en dentelle et des manches bouffantes. Les robes du soir deviennent de véritables œuvres d'art, sublimées par des perles, des sequins scintillants et des broderies somptueuses qui captent la lumière électrique. La belle époque marque aussi l'âge d'or de la haute couture, avec des créateurs comme Charles Frederick Worth révolutionnant la mode en introduisant des collections saisonnières et des vêtements sur mesure destinés à l'aristocratie et à la haute bourgeoisie. Les tissus deviennent plus légers et fluides, la mousseline, la dentelle et l'organza remplacent les brocarts épais des décennies précédentes. Les chapeaux prennent des proportions impressionnantes, ornés de rubans, de plumes, de fleurs artificielles et parfois même d'oiseaux entiers, reflétant l'amour de l'époque pour le faste et le spectaculaire. L'un des aspects les plus remarquables de la mode de la belle époque est l'importance croissante des loisirs et du sport dans la vie quotidienne. Avec l'essor du chemin de fer et des stations balnéaires, de plus en plus de femmes pratiquent des activités comme le cyclisme, le tennis ou les promenades en bord de mer, ce qui conduit à l'émergence de vêtements à la fois pratiques et élégants. Les costumes de promenade, composés de vestes ajustées et de longues jupes, offrent une plus grande liberté de mouvement, tandis que les tenues de bain, souvent en laine sombre pour préserver la pudeur, deviennent un élément incontournable de la garde-robe moderne. Pour les hommes, la belle époque marque un tournant vers une élégance plus épurée et sophistiquée. La redingote reste prisée pour les occasions formelles, tandis que le lounge suit, précurseur du costume d'affaires moderne, devient un choix pratique pour la vie quotidienne. Les cravates et lavalière cèdent la place à la cravate fourrinande, proche de la cravate actuelle, et les chaussures gagnent en finesse avec l'apparition des Oxford et des souliers bicolores Spectator, adaptés aux occasions plus décontractées. Cette époque voit également l'influence grandissante des mouvements artistiques sur la mode, notamment l'art nouveau, dont les lignes fluides, les motifs floraux et les formes organiques inspirent aussi bien le textile que la joaillerie. La belle époque est une ère d'optimisme et de raffinement où la mode reflète la joie de vivre, l'innovation et l'élégance d'une société à son apogée juste avant que le monde ne soit bouleversé par la Première Guerre mondiale. En observant les magnifiques vêtements de cette période, prêtez attention au savoir-faire, aux ornements minutieux et à la fluidité des designs. Chaque pièce incarne non seulement le summum du luxe, mais aussi l'évolution du rôle de la mode dans un monde en pleine modernisation. À présent, poursuivons notre voyage à travers le temps et découvrons l'arrivée du XXe siècle, une période de bouleversement stylistique et d'innovation radicale. En avançant dans le musée de la mode et du costume, vous vous retrouvez face à une collection exceptionnelle d'objets personnels ayant appartenu aux puissants Médicis. Cette section offre un aperçu intime du quotidien, des goûts et des symboles de statues de Don Garcia de Médicis, d'Éléonore de Tolède et de Cosme Ier de Médicis, trois figures clés qui ont façonné la grandeur et l'influence de la dynastie. Commençons par Don Garcia de Médicis, fils de Cosme Ier et d'Éléonore de Tolède. Bien qu'il soit mort jeune, ses effets personnels nous renseignent sur l'éducation et le raffinement des princes Médicis. Parmi les objets exposés, on distingue des vêtements richement brodés, ornés de fils d'or et de motifs complexes, des symboles de son rang noble. Ces tenues ne sont pas seulement des pièces de mode, mais de véritables déclarations politiques, affirmant la puissance et la richesse de la famille Médicis. Son armure d'enfant est également présentée, une magnifique armure miniature conçue pour le préparer aux exigences d'un noble, formé dès son plus jeune âge à l'art de la guerre et au leadership. Le travail minutieux, des gravures délicates sur la cuirasse aux articulations finement ouvragées, illustre l'idéal de la Renaissance, où l'esthétique et la fonctionnalité se rejoignent. Poursuivons avec les effets personnels d'Éléonore de Tolède, l'une des femmes les plus influentes du XVIe siècle, symbole de pouvoir, d'élégance et de raffinement. Épouse de Cosme Ier, elle impose son style et influence la mode de la cour florentine. Ses robes somptueuses, confectionnées dans les plus belles soies florentines, sont remarquablement bien préservées. L'une des pièces les plus célèbres associées à elle est une robe de cérémonie en velours, ornée de broderies d'or et de perles. La richesse du tissu, alliée à la précision du travail d'ornementation, témoigne de l'importance de l'industrie textile florentine à la Renaissance, un secteur largement contrôlé par les Médicis. Au-delà de ces somptueuses tenues, vous découvrirez des objets personnels tels que des ornements de cheveux incrustés de pierres précieuses, des gants richement décorés et d'élégants éventails, tous réalisés avec une précision remarquable. Ces accessoires n'étaient pas seulement décoratifs, mais jouaient un rôle essentiel dans l'étiquette de cour. Son livre de prière, relié en cuir précieux et illuminé de feuilles d'or, offre un aperçu plus intime de sa piété et de sa dévotion, renforçant son image de souveraine vertueuse et cultivée. Enfin, nous arrivons aux possessions de Cosme Ier de Médicis, grand-duc de Toscane et dirigeant qui transforma Florence en une grande puissance de la Renaissance. L'un des objets les plus remarquables exposés est son armure personnelle, véritable chef-d'œuvre de l'artisanat renaissant. Contrairement aux armures de combat traditionnelles, celle de Cosme est richement gravée de motifs mythologiques et héraldiques, conçue pour asseoir son image de souverain guerrier, dans la lignée de la Rome antique. Les détails, représentant des scènes de conquête, de force et de protection divine, renforcent la légitimité du pouvoir des Médicis. À côté de son armure, on trouve de somptueuses armes, dont des épées et des dagues cérémonielles aux poignets finement gravés et incrustés de pierres précieuses. Ces objets n'étaient pas seulement des instruments de guerre, mais aussi des symboles de prestige, affirmant l'autorité et la puissance militaire de Cosme. Vous remarquerez également ses instruments d'écriture personnelle, ses sceaux en cire et des documents officiels, offrant un aperçu du rôle administratif qu'il exerçait. Ces artefacts révèlent Cosme non seulement comme un homme d'État et un stratège, mais aussi comme un mécène des arts, profondément impliqué dans la gouvernance et l'essor culturel de Florence. Cette section du musée offre une occasion unique d'entrer dans l'univers des Médicis, en établissant un lien tangible avec leur vie, leurs ambitions et leur héritage. Poursuivons notre exploration pour découvrir d'autres trésors qui racontent l'histoire de cette famille influente et de son impact sur la mode, la politique et l'art. Continuons notre voyage. En avançant dans le musée de la mode et du costume, nous pénétrons désormais dans les premières années du XXe siècle, une période de transformation sociale et culturelle profonde qui se reflète fortement dans la mode. Les silhouettes rigides et corsetées de la Belle Époque commencent à céder la place à des styles plus fluides et pratiques, à mesure que le rôle des femmes évolue dans la société. Les années 1900 restent marquées par le raffinement et le luxe, mais une quête croissante de confort et de liberté de mouvement amorce l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de la mode. L'une des tendances majeures de cette époque est le corset à courbure en S, également appelé corset de santé. Contrairement au corset étroitement lacé du XIXe siècle qui créait une taille en sablier, ce modèle repousse la poitrine vers l'avant et bascule les hanches vers l'arrière, accentuant une silhouette en S très prononcée. Popularisé par des créateurs comme Paul Poiret et Lucille, Lady Dove Gordon, ce style met en valeur les courbes féminines tout en offrant une liberté de mouvement légèrement accrue. Les robes de jour arborent de hauts cols en dentelle, des manches bouffantes et des tailles étroites, souvent agrémentées de délicates broderies et perles. Les jupes restent longues, mais elles se parent de drapés plus souples au lieu des lourdes superpositions de jupons, conférant une allure plus fluide. Pour les tenues de soirée, les robes somptueuses en soie, mousseline et satin restent en vogue, rehaussées de sequins, de perles et de dentelles délicates. L'idéal de beauté de l'époque est incarné par le style Gibson Girl, une femme élégante et sûre d'elle, coiffée de boucles souples relevées en chignon. Les chapeaux restent volumineux et sophistiqués, ornés de plumes, de rubans et de motifs floraux, rappelant à quel point ces accessoires sont indispensables à une tenue féminine. La mode masculine du début du XXe siècle conserve une certaine tradition, le costume trois pièces demeurant la norme. Toutefois, la redingote, autrefois incontournable pour les occasions formelles, est progressivement remplacée par la jaquette et le costume lounge, plus pratique au quotidien. Le canotier devient un accessoire prisé, apportant une touche plus décontractée et moderne à l'élégance masculine. Alors que nous avançons dans les années 1910 et les deux premières décennies du XXe siècle, la mode subit des transformations encore plus radicales, influencées par les événements mondiaux, les mouvements artistiques et un besoin croissant de vêtements plus pratiques. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, joue un rôle crucial dans l'accélération du déclin des vêtements contraignants, en particulier pour les femmes. Avec l'entrée massive des femmes dans la vie active et l'occupation de postes traditionnellement réservés aux hommes, des tenues plus fonctionnelles et moins restrictives deviennent indispensables. Les corsets sont progressivement abandonnés au profit de vêtements plus amples, et les ourlets commencent à remonter légèrement sans toucher encore le genou, ils s'arrêtent juste au-dessus des chevilles pour faciliter le mouvement. La jupe entravée, une mode éphémère qui limitait la démarche, est rapidement abandonnée au profit de coupes plus pratiques. Paul Poiret, l'un des créateurs les plus novateurs de l'époque, introduit des robes fluides à taille haute qui éliminent complètement le corset, s'inspirant des influences orientalistes et des couleurs vibrantes des ballets russes. Ses créations, caractérisées par des tuniques, des manches kimono et des motifs audacieux, rompent avec l'esthétique européenne traditionnelle et ouvrent la voie à la mode moderne. Les années 1920 marquent une rupture encore plus marquée avec le passé. À la sortie de la guerre, un profond désir de changement, de liberté et d'expression personnelle se fait sentir. La mode féminine adopte une allure plus androgyne avec l'émergence du style garçonne, tailles abaissées, jupes plus courtes et silhouettes droites qui rejettent totalement les courbes structurées des décennies précédentes. Cette époque voit naître la femme moderne indépendante, élégante et audacieuse face aux conventions. La mode masculine évolue également dans l'après-guerre. Les styles rigides et formels du siècle précédent laissent place à une coupe plus souple et confortable. Les costumes s'assouplissent et s'ajustent plus naturellement à la silhouette, tandis que les influences du sportswear commencent à apparaître. Le smoking, introduit à la fin du XIXe siècle, devient un incontournable de la tenue de soirée masculine, tandis que les matières plus légères et les tricots gagnent en popularité pour le quotidien. Ici, au cœur de cette section du musée, entouré de vêtements qui racontent ces années de bouleversements, prenons un instant pour observer comment la mode reflète les évolutions du monde. Le début du XXe siècle est marqué par une libération, une expérimentation et une innovation qui poseront les bases des styles révolutionnaires à venir. Maintenant, poursuivons notre exploration vers la prochaine étape de l'histoire de la mode, où le modernisme s'impose et redéfinit à nouveau le concept du style. En poursuivant notre voyage à travers le musée de la mode et du costume, nous entrons à présent dans l'une des décennies les plus emblématiques et révolutionnaires de l'histoire de la mode, les années 1920. C'est l'ère des flappeurs, une période d'émancipation, d'audace et d'un rejet total des styles rigides des générations précédentes. Pour les femmes, cette décennie marque la fin définitive du corset et l'essor d'une silhouette plus androgyne. Loin des tailles marquées et des formes en sablier du passé, les robes adoptent une coupe droite, des tailles abaissées et des ourlets plus courts, favorisant la liberté de mouvement. La robe de soirée typique de cette époque est sans manches, souvent ornée de perles, de sequins et de franges qui scintillent et dansent à chaque pas. L'influence de l'art déco, avec ses motifs géométriques et ses touches métalliques audacieuses, se retrouve dans de nombreuses créations, capturant l'énergie moderne et effervescente de l'époque. La salle des accessoires présente une superbe collection des détails incontournables qui complétaient le style des années folles. L'une des pièces les plus marquantes est le chapeau-cloche, un couvre-chef ajusté en forme de cloche qui définit la décennie. Porté bas sur le front, il s'accompagne souvent d'une coupe au carré, une coiffure audacieuse et symbolique de l'indépendance féminine. La joaillerie des années 1920 s'inspire du style égyptisan, dans la lignée de la découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922. De longs colliers de perles superposés, des broches art déco serties de saphir et d'émeraude, ainsi que de délicats bracelets incrustés de diamants témoignent de l'amour de cette époque pour l'opulence et le luxe. Les iconiques boucles d'oreilles à pampilles, souvent ornées de perles ou de chaînettes, étaient un élément essentiel du look flappé, apportant mouvement et élégance. Les sacs à main deviennent plus petits et plus décoratifs, mettant à l'honneur les pochettes perlées et les sacs en maille métallique. Et, bien sûr, aucun ensemble des années 1920 n'était complet sans le fume-cigarette, symbole de modernité féminine et de rébellion contre les normes sociales traditionnelles. Chez les hommes, la mode des années 1920 adopte une élégance plus décontractée. Les styles rigides et formels des décennies précédentes laissent place aux pantalons larges, aux vestes croisées et aux chaussures bicolores qui dégagent un charme naturel. Le chapeau Panama et la casquette Gavroche deviennent des accessoires incontournables, illustrant l'ascension du style casual. À présent, en quittant l'énergie éclatante des années 1920, nous entrons dans l'entre-deux-guerres, une période marquée à la fois par la crise économique et l'innovation artistique. La Grande Dépression des années 1930 a un impact profond sur la mode, le luxe n'est plus une priorité et les créateurs s'adaptent à un style plus sobre et fonctionnel. Les robes s'allongent de nouveau, leurs ourlets descendant au milieu du mollet, voire jusqu'aux chevilles, tandis que les tissus deviennent plus simples, souvent dans des teintes plus discrètes. La robe en biais, introduite par Madeleine Vionnet, devient emblématique de la décennie, offrant une silhouette fluide et ajustée, à la fois élégante et confortable. Malgré ces temps difficiles, Hollywood joue un rôle essentiel dans l'influence des tendances. L'âge d'or du cinéma met en lumière des icônes telles que Marlène Dietrich et Greta Garbo, qui encouragent les femmes à adopter des tenues sophistiquées et structurées. Le trench coat, les pantalons larges et les smokings féminins gagnent en popularité, bousculant les conventions vestimentaires de genre. Pour les hommes, la mode des années 1930 affine le costume classique en introduisant des épaules plus larges, des revers plus imposants et une coupe plus structurée. Les vestes croisées deviennent la norme pour les tenues habillées, tandis que les bretelles et les pochettes ajoutent une touche d'élégance personnalisée. Le chapeau Fedora devient un accessoire emblématique, complétant le look raffiné et masculin de cette époque. En parcourant cette section du musée, observez comment la mode reflète les évolutions de la société. Les années 1920 étaient synonymes de liberté et d'excès, tandis que l'entre-deux-guerres impose davantage de pragmatisme et de sobriété, influencé par la réalité économique et l'univers du cinéma. Maintenant, poursuivons notre voyage pour découvrir la prochaine grande transformation, les styles audacieux et novateurs des années 1940 et au-delà. En entrant dans la section suivante du musée de la mode et du costume, nous laissons derrière nous les difficultés de la guerre pour entrer dans une période de renouveau, d'optimisme et de réinvention spectaculaire, la mode d'après-guerre. L'impact de la Seconde Guerre mondiale ne se limite pas aux bouleversements économiques et politiques, il entraîne aussi une véritable révolution vestimentaire. À la fin des années 1940 et dans les années 1950, la mode renoue avec l'élégance, la féminité et le luxe, après plusieurs années de restrictions et de pragmatisme. L'un des moments les plus marquants de cette époque est l'introduction du New Look par Christian Dior en 1947. Cette silhouette révolutionnaire, caractérisée par une taille marquée, une jupe ample et une mise en valeur de la silhouette en sablier, tranche avec les styles austères et fonctionnels de la guerre. Les tissus redeviennent plus abondants, et l'usage de la soie, du tulle et des broderies redonne tout son éclat à la haute couture. Cette période marque également la renaissance de Paris comme capitale mondiale de la mode, sous l'impulsion de créateurs tels que Balenciaga, Givenchy et Chanel, qui redéfinissent l'esthétique de la décennie. Pour les femmes, la mode des années 1950 était synonyme de sophistication raffinée. Les tenues de jour se composaient de costumes taillés, de jupes crayons et de blouses ajustées, souvent accessoirisées de gants et de perles. Les tenues de soirée étaient extravagantes, avec des robes mettant en valeur des tailles cintrées, des jupes volumineuses et des embellissements complexes. Les coiffures étaient glamour, des boucles structurées et des chignons élégants complétaient le look ultra-féminin. La mode masculine adoptait également un style plus raffiné. Les costumes croisés, les cravates étroites et les coiffures lisses devenaient la norme pour les occasions formelles, tandis que le vêtement décontracté voyait l'essor des vestes en cuir, des jeans retroussés et des t-shirts blancs, en partie grâce à des icônes culturelles telles que James Dean et Marlon Brando. À mesure que nous avançons dans les années 1960 et 1970, nous assistons à une rupture complète avec la tradition, la mode devient une déclaration d'individualité, de rébellion et de changement culturel. Les années 1960 introduisent une esthétique jeune et audacieuse, portée par la montée de la mode de rue, la culture mode et les influences psychédéliques. C'était l'époque de la mini-jupe, popularisée par Marie Kahn, et des imprimés géométriques inspirés de l'OAR et du pop-art. Des créateurs comme André Courrèges et Pierre Cardin ont embrassé le futurisme, créant des silhouettes épurées et minimalistes avec des tissus métalliques, des bottes de l'espace et des lignes nettes. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, la mode hippie explose, fortement influencée par les mouvements de contre-culture, les festivals de musique et l'appel croissant à la liberté et à l'expression de soi. Les robes maxi-fluides, les pantalons évasés, les t-shirts TED et les gilets à franges deviennent l'uniforme d'une génération entière qui rejette les normes sociales. La mode inspirée de cultures ethniques, avec des tuniques brodées et des imprimés bohèmes, connaît un immense succès, reflétant les influences mondiales de cette époque. Pour les hommes, la mode des années 1970 embrasse des couleurs vives, des revers larges et des silhouettes exagérées. Le costume trois pièces, souvent dans des tons terreux ou en velours, devient un look signature, tandis que le mouvement disco introduit des tenues éblouissantes en sequins et des pantalons évasés. À mesure que nous avançons dans les années 1980 et 1990, la mode prend un tournant spectaculaire embrassant l'excès, le pouvoir et l'expression de soi de manière totalement nouvelle. Les années 1980 sont définies par des silhouettes audacieuses et surdimensionnées, reflétant une culture d'ambition, de matérialisme et de progrès technologique. Le power dressing devient essentiel, avec des femmes portant des vestes à épaulettes, des jupes crayons et des talons hauts, inspirées par l'ascension de la culture d'entreprise et des figures comme Margaret Thatcher et la princesse Diana. Parallèlement, le monde de la haute couture est dominé par des créateurs de luxe comme Gianni Versace, Giorgio Armani et Jean-Paul Gaultier, dont les créations mettent en avant des couleurs vives, des motifs baroques et des détails glamour. Les marques de sportswear et de streetwear, telles que Nike et Adidas, voient également leur influence croître, alors que la mode sportive et décontractée se mélange avec des créations haut de gamme. Pour les hommes, les années 1980 apportent des costumes carrés, des couleurs pastel et des vestes en cuir, popularisées par des icônes de la pop culture comme Michael Jackson et Tom Cruise. La mode décontractée voit l'essor des jeans délavés, des pulls surdimensionnés et des baskets, reflétant l'esthétique décontractée mais audacieuse de l'époque. Ensuite, à mesure que nous entrons dans les années 1990, la mode adopte une approche épurée et minimaliste, rejetant l'excès de la décennie précédente. Le mouvement grunge, inspiré par des groupes comme Nirvana et Pearl Jam, introduit les chemises à carreaux, les jeans déchirés et les bottes de combat, marquant un tournant vers des styles anti-mode et sans effort. En même temps, l'essor des supermodèles comme Naomi Campbell, Kate Moss et Cindy Crawford voient émerger des looks épurés et raffinés, pensés aux robes fourreaux, aux débardeurs simples et aux jeans taille basse. Pour les hommes, la mode des années 90 est un mélange de vêtements décontractés et de styles urbains. Les jeans amples, les sweats à capuche surdimensionnés et les casquettes de baseball deviennent la tenue standard, influencée par la montée de la popularité du hip-hop et de la culture du skateboard. En parcourant ces décennies, remarquez comment la mode est le reflet de la société, de l'élégance d'après-guerre au mouvement de jeunesse rebelle, et de l'excès de pouvoir des années 80 à la décontraction des années 90. Continuons notre voyage, en entrant dans le 21e siècle et le monde de la mode contemporaine. À l'approche de la fin de notre visite au musée de la mode et des costumes, prenons un moment pour rendre hommage à l'une des figures les plus importantes et avant-gardistes de l'histoire de la mode italienne, Rosa Genoni. Souvent qualifiée de « mère de la mode italienne », Genoni fut l'une des premières à défendre l'artisanat italien dans le monde de la mode, à une époque où les créateurs français dominaient la scène mondiale. Couturière, designer et militante pour le renouveau des textiles traditionnels italiens, Rosa Genoni a joué un rôle clé dans l'évolution de la mode italienne au début du XXe siècle. Ses créations étaient ancrées dans le respect du patrimoine italien, travaillant méticuleusement avec des tissus traditionnels tels que la laine, la soie et le lin, pour créer des vêtements à la fois élégants et pratiques. Les pièces de Genoni mettaient en valeur son engagement envers un savoir-faire de qualité et intégraient souvent des travaux manuels minutieux, comme des broderies délicates et des perles. Elle était également reconnue pour promouvoir la durabilité, en créant des vêtements qui résistaient à l'épreuve du temps, tant sur le plan du style que de la construction. La robe que nous voyons en exposition est un exemple de son style distinctif, classique, intemporel, et incarnant un profond respect pour la tradition italienne, avec une touche moderne qui était en avance sur son époque. Son engagement à préserver l'héritage sartorial de l'Italie a jeté les bases de ce qui allait devenir la révolution de la mode italienne, ouvrant la voie à des créateurs tels que Giorgio Armani, Valentino et Dolce & Gabbana. Aujourd'hui, Rosa Giannoni est célébrée comme une pionnière ayant influencé le cours de l'histoire de la mode, et ses créations continuent d'inspirer les générations futures. À mesure que nous tournons la page vers le nouveau millénaire, la mode continue d'évoluer, embrassant l'intersection de la technologie, de la durabilité et de la créativité. Le XXIe siècle a apporté une vague de transformation numérique qui a impacté tous les aspects de l'industrie de la mode, de la montée des influenceurs sur les réseaux sociaux qui façonnent les tendances en temps réel à l'importance croissante de la mode éco-responsable et des pratiques de design durable. Les années 2000 ont introduit une esthétique plus décontractée, influencée par le streetwear, avec des vêtements à logo voyant, des silhouettes surdimensionnées et l'athlésure devenant grand public. Des créateurs comme Marc Jacobs, Alexander Wang et Raph Simons ont redéfini ce que pouvait être la haute couture, mélangeant luxe et sensibilité street dans des collections révolutionnaires. En même temps, la montée rapide de la mode rapide a rendu les tendances plus accessibles que jamais, créant un cycle d'innovation et de changement constant. Dans les années 2010, l'industrie de la mode a vu l'influence croissante de la technologie. L'impression 3D, les textiles intelligents et les défilés de mode virtuels sont devenus courants. La mode n'était plus seulement une question de vêtements, il s'agissait de créer des expériences. La durabilité est devenue un sujet central à mesure que les consommateurs et les créateurs prenaient conscience de l'impact environnemental de la production de vêtements. La mode circulaire a émergé comme une réponse à ce désir croissant de consommation éthique, encourageant des pratiques telles que le recyclage, l'achat de seconde main et l'utilisation de matériaux durables. À mesure que nous approchons de la mode d'aujourd'hui, nous voyons un mélange passionnant de nostalgie et de futurisme, les créateurs faisant constamment référence aux tendances passées tout en repoussant les limites avec de nouvelles techniques et technologies. Le monde de la mode est devenu plus inclusif, embrassant la diversité et la positivité corporelle, et permettant à un plus grand éventail d'identités et d'expressions d'être célébré. Cela conclut notre voyage à travers l'histoire de la mode. Des créations révolutionnaires du début du XXe siècle aux idées audacieuses et novatrices d'aujourd'hui, la mode continue de refléter la société, se réinventant sans cesse. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans l'art de la mode et que vous repartirez avec une plus grande appréciation pour l'artisanat et la créativité qui ont façonné ce que nous portons et la façon dont nous nous exprimons à travers l'histoire. Merci d'avoir choisi YouTour pour vous guider à travers le musée de la mode et des costumes. Nous espérons que cette expérience vous a inspiré et nous vous invitons à poursuivre votre exploration du reste du Palazzo Pitti, avec sa superbe collection d'art, d'histoire et de beauté. Profitez bien du reste de votre visite. En entrant dans la Galleria di Arte Moderna, nous pénétrons dans une période riche de l'histoire de l'art, qui reflète les transformations sociales, politiques et culturelles de l'âge moderne. La collection ici s'étend de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, montrant comment la Toscane, et l'Italie plus largement, ont été influencées par des mouvements européens plus larges et des dynamiques locales. Notre premier arrêt se concentre sur l'essor du néoclassicisme en Toscane, un style profondément ancré dans l'étude et la renaissance de l'antiquité classique de la Grèce et de Rome. C'était une époque où les artistes cherchaient à revenir aux formes idéalisées de l'art classique, privilégiant la symétrie, la simplicité et la rationalité. L'influence des idéaux des Lumières, avec son accent sur la raison, l'ordre et la moralité, était évidente dans ce mouvement, car les artistes croyaient que l'art devait inspirer un comportement vertueux. En parcourant la galerie, prenez note des sculptures et des peintures qui illustrent cette époque. Les sculptures néoclassiques ici reflètent un vif intérêt pour la forme humaine, s'inspirant souvent des motifs grecs et romains antiques pour évoquer la beauté idéale et la noblesse. Les peintres de l'époque, comme Giovanni Fattori et Silvestro Lega, s'inspiraient de ces idéaux classiques, tout en capturant l'atmosphère unique de la Toscane et de la péninsule italienne en général. Ces œuvres font le lien entre l'esthétique traditionnelle de l'Antiquité classique et les idées émergentes de l'époque moderne. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, cependant, l'art français commença à affirmer sa domination à travers l'Europe, notamment après la Révolution française. À cette époque, l'art était étroitement lié aux idéologies politiques, et l'Académie française devenait la norme pour de nombreux artistes, repoussant les limites de l'expression artistique. L'influence de la Révolution française elle-même est particulièrement évidente dans l'iconographie de l'époque, qui reflète à la fois les changements tumultueux de la société et la montée des sentiments nationalistes. En parcourant la Galleria di Arte Moderna, prenez note des œuvres inspirées par les événements de la Révolution française. Les figures néoclassiques comme Napoléon Bonaparte étaient souvent représentées comme des héros classiques, renforçant son pouvoir et sa légitimité en tant qu'empereur. Ces images de dirigeants révolutionnaires ont contribué à façonner le langage visuel du pouvoir et du gouvernement qui résonnait à travers l'Europe et au-delà. La primauté de l'art français au XIXe siècle eut un impact durable sur les artistes italiens, dont beaucoup partirent à Paris pour étudier à l'Académie des Beaux-Arts. La domination française dans le monde de l'art a également préparé le terrain pour l'unification de l'Italie, car les artistes commencèrent à explorer de nouvelles manières de représenter l'identité nationale en évolution. En vous promenant dans cette section, recherchez les œuvres qui reflètent l'iconographie des dynasties d'avant l'unification, y compris les représentations de la maison de Lorraine et, plus tard, de la maison de Savoie. Ces œuvres servaient souvent de puissants symboles de la légitimité des familles régnantes et de la conscience nationale croissante en Italie. Les figures et portraits de l'époque montrent l'importance croissante du nationalisme et de la représentation visuelle de l'État, un thème qui continuerait d'évoluer dans l'art italien à mesure que le pays se dirigeait vers l'unification. La galerie offre un regard fascinant sur la manière dont l'art a reflété les changements sociaux et politiques de l'époque. Du style néoclassique qui cherchait à revivre les vertus du monde classique à l'influence de l'art français dans la formation de l'iconographie européenne moderne, les œuvres présentes ici offrent un aperçu du monde complexe et dynamique de l'art du XIXe siècle en Italie et au-delà. En poursuivant notre exploration de la Galleria di Arte Moderna, nous passons maintenant à une partie importante de la collection qui met en valeur l'intersection de l'art, de l'histoire et des changements culturels du XIXe siècle, en nous concentrant spécifiquement sur l'héritage de la famille de Nidoff à Florence et l'évolution de l'art de la Restauration à cette époque. La famille de Nidoff était une famille noble russe ayant de forts liens avec Florence, en particulier au XIXe siècle. Leur richesse, issue de l'exploitation minière et de l'industrie, leur a permis de jouer un rôle significatif dans la vie culturelle et artistique de la ville. En tant que collectionneurs et mécènes des arts, ils soutenaient à la fois les artistes locaux et internationaux. Leur présence à Florence a contribué à élever la ville au rang de centre artistique et culturel, particulièrement à une époque où la Toscane cherchait à équilibrer son riche patrimoine artistique avec les nouvelles exigences de la modernité. L'art de la Restauration joue également un rôle central à cette époque. Avec l'essor du romantisme et l'intérêt croissant pour la préservation du passé, de nombreux artistes et conservateurs à Florence se sont concentrés sur la restauration et la conservation des œuvres des périodes Renaissance et Baroque. Ce mouvement de restauration visait non seulement à préserver ses chefs-d'œuvre pour les générations futures, mais aussi à exprimer un profond respect pour le riche patrimoine artistique de l'Italie. Tout au long de la galerie, vous remarquerez la tendance croissante des œuvres qui célèbrent le passé, non seulement comme sujet d'exploration artistique, mais aussi comme des éléments intégrants de l'identité nationale de l'Italie. Parmi ces œuvres, un aspect clé est l'émergence de la peinture romantique, avec son accent distinct sur les genres historiques. Le romantisme, en tant que mouvement, se caractérisait par un accent mis sur l'émotion, l'individualisme et le sublime, tirant souvent son inspiration de l'histoire nationale, du folklore et des éléments dramatiques du passé. La peinture de genre historique, sous-genre clé du romantisme, représentait des moments clés de l'histoire, souvent avec un sens dramatique et une intensité émotionnelle accentuée. Ce genre était un outil essentiel pour les artistes afin d'exprimer la tension entre le présent et le passé, capturant des moments historiques avec un sens de grandeur et d'importance. En parcourant cette section, cherchez des peintures qui explorent l'histoire italienne et européenne, mettant en lumière le pouvoir narratif de l'art pour façonner la mémoire collective et l'identité nationale. Passons maintenant à l'un des éléments les plus remarquables de la Galleria di Arte Moderna, la salle de bal, une pièce qui capture la grandeur et l'élégance d'une époque révolue. Initialement partie du Palazzo Pitti à l'époque de la famille Lorenzo de Medici, la salle de bal était un espace essentiel pour les événements sociaux et les rassemblements officiels, reflétant la culture aristocratique de l'époque. En regardant autour de vous, prenez note du design orné et des caractéristiques architecturales qui font de cet espace un lieu unique. Les plafonds et les murs, décorés de fresques et de stucs complexes, reflètent le style baroque qui dominait à l'époque de la domination des Médicis, mettant en valeur à la fois l'opulence et la sophistication. Le design de la salle de bal en dit long sur les valeurs et l'identité de la famille Médicis, dont le mécénat des arts et de la culture a contribué à façonner Florence en un centre mondial de l'art et du pouvoir. Les détails somptueux, y compris les fresques d'artistes renommés tels que Giovanni da San Giovanni et Gian Gaston, représentent des scènes mythologiques et des figures allégoriques qui communiquent la grandeur et les aspirations intellectuelles de l'époque. En explorant, notez les accents dorés, les sols en marbre et l'éclairage dramatique, qui servent à souligner l'utilisation prévue de la salle de bal comme un lieu de célébration et de pouvoir. La galerie offre un regard fascinant sur la manière dont l'art a reflété les changements sociaux et politiques de l'époque. Du style néoclassique qui cherchait à raviver les vertus du monde classique à l'influence de l'art français dans la formation de l'iconographie moderne européenne, les œuvres ici offrent un aperçu du monde complexe et dynamique de l'art du XIXe siècle en Italie et au-delà. Alors que nous poursuivons notre exploration de la Galleria di Arte Moderna, nous passons maintenant à une partie significative de la collection qui met en lumière l'intersection de l'art, de l'histoire et des changements culturels du XIXe siècle, en mettant particulièrement l'accent sur l'héritage de la famille de Midhoff à Florence et l'évolution de l'art de la Restauration à cette époque. La famille de Midhoff était une famille noble russe avec de forts liens avec Florence, particulièrement au XIXe siècle. Leur richesse, dérivée de l'exploitation minière et de l'industrie, leur a permis de jouer un rôle significatif dans la vie culturelle et artistique de la ville. En tant que collectionneur et mécène des arts, ils soutenaient aussi bien les artistes locaux qu'internationaux. Leur présence à Florence a contribué à élever la ville en tant que centre artistique et culturel, notamment à une époque où la Toscane cherchait à équilibrer son riche héritage artistique avec les nouvelles exigences de la modernité. L'art de la Restauration joue également un rôle central durant cette période. Avec la montée du romantisme et l'intérêt croissant pour la préservation du passé, de nombreux artistes et conservateurs florentins se sont concentrés sur la restauration et la conservation des œuvres des périodes Renaissance et Baroque. Ce mouvement de restauration visait non seulement à préserver ses chefs-d'œuvre pour les générations futures, mais aussi à témoigner d'un profond respect pour l'héritage artistique de l'Italie. Tout au long de la galerie, vous remarquerez la tendance croissante des œuvres qui célèbrent le passé, non seulement comme des sujets d'exploration artistique, mais aussi comme des parties intégrantes de l'identité nationale de l'Italie. Parmi ces œuvres, un aspect clé est l'émergence de la peinture romantique avec son accent particulier sur les genres historiques. Le romantisme, en tant que mouvement, se caractérisait par une mise en avant de l'émotion, de l'individualisme et du sublime, souvent inspiré par l'histoire nationale, le folklore et les éléments dramatiques du passé. La peinture de genre historique, un sous-genre essentiel du romantisme, représentait des moments clés de l'histoire, souvent avec un sens dramatique et une intensité émotionnelle accrue. Ce genre était un outil essentiel pour les artistes afin d'exprimer la tension entre le présent et le passé, capturant des moments historiques avec un sens de grandeur et d'importance. En vous promenant dans cette section, cherchez des peintures qui explorent l'histoire italienne et européenne, mettant en lumière le pouvoir narratif de l'art dans la formation de la mémoire collective et de l'identité nationale. Maintenant, concentrons-nous sur l'une des caractéristiques les plus remarquables de la Galleria di Arte Moderna, la salle de bal, une pièce qui capture la grandeur et l'élégance d'une époque révolue. Initialement partie du Palazzo Pitti à l'époque de la famille Lorenzo de Medici, la salle de bal était un espace essentiel pour les événements sociaux et les rassemblements officiels, reflétant la culture aristocratique de l'époque. En observant autour de vous, remarquez le design orné et les caractéristiques architecturales qui rendent cet espace si distinctif. Les plafonds et les murs, décorés de fresques et de stucs élaborés, reflètent le style baroque qui dominait pendant le règne des Médicis, montrant à la fois l'opulence et la sophistication. Le design de la salle de bal parle de manière significative des valeurs et de l'identité de la famille Médicis, dont le mécénat des arts et de la culture a contribué à faire de Florence un centre mondial de l'art et du pouvoir. Les détails somptueux, notamment les fresques de célèbres artistes comme Giovanni da San Giovanni et Gian Gastone, représentent des scènes mythologiques et des figures allégoriques qui communiquent la grandeur et les aspirations intellectuelles de l'époque. En explorant, notez les accents dorés, les sols en marbre et l'éclairage dramatique, qui mettent tous en évidence l'usage prévu de la salle de bal comme un lieu de célébration et de pouvoir. En tournant notre attention vers Diego Martelli, nous voyons comment son influence a façonné le développement du naturalisme en Italie. Martelli n'était pas seulement un critique d'art, mais aussi un mécène clé du mouvement des Macchiaioli, et il a apporté des conseils et un soutien à plusieurs des artistes les plus importants du groupe. En tant que critique, Martelli soutenait que l'art devait être fondé sur l'observation directe de la nature et que les artistes devaient rejeter les représentations idéalisées qui avaient dominé la peinture académique pendant des siècles. Ses écrits ont encouragé les artistes du groupe Macchiaioli à adopter une approche directe et sans sentimentalisme de leur sujet, capturant la beauté brute et l'authenticité de la vie quotidienne. Sous l'influence de Martelli, les artistes ont commencé à explorer le réalisme de nouvelles manières, se concentrant non seulement sur l'apparence de la nature mais aussi sur son impact émotionnel. Leurs œuvres captaient non seulement le monde extérieur, mais aussi le monde intérieur de leurs sujets, créant un art qui n'était pas seulement visuellement précis, mais aussi profondément humain. Ce changement de perspective a permis au naturalisme de prospérer en Italie et a ouvert la voie à des mouvements artistiques ultérieurs, tels que l'impressionnisme, qui repousserait encore plus loin les limites de la manière dont les artistes représentaient le monde qui les entourait. Dans la Galleria di Arte Moderna, les peintures de cette période montrent l'interaction entre la vision unique de Banti et le mouvement plus large des Machiavelli. Vous remarquerez des œuvres qui reflètent une attention minutieuse aux nuances de lumière, de texture et d'atmosphère, qu'il s'agisse de paysages ruraux, de scènes de la vie quotidienne ou de moments intimes de la vie domestique. À travers ces œuvres, les artistes transmettent un sentiment de véracité et d'intimité, invitant le spectateur à entrer dans le monde de la peinture et à le vivre avec tous ses sens. Ce qui rend la collection de Cristiano Banti et le mouvement naturaliste si important, c'est qu'il marque une rupture avec le passé, les artistes défiant les conventions longtemps tenues et repensant ce que l'art pouvait représenter. En rejetant les formes idéalisées et en embrassant la beauté brute du monde quotidien, les Machiavelli ont posé les bases de l'art moderne, influençant des générations d'artistes qui allaient continuer à repousser les frontières de la représentation visuelle. Dans ses œuvres, nous voyons les premiers frémissements du modernisme et un passage vers une approche plus personnelle et humaniste de l'art. C'est une évolution profonde, du grandiose du passé à une connexion plus intime et directe entre l'artiste et le monde qui l'entoure. Au fur et à mesure que vous continuez à explorer la Galleria di Arte Moderna, prenez un moment pour réfléchir à l'importance de ces premiers artistes et à leur rôle pionnier dans la formation de l'art italien et européen de demain. En poursuivant votre exploration de la Galleria di Arte Moderna, je voudrais attirer votre attention sur quelques salles où vous remarquerez des changements fascinants dans les techniques et styles artistiques, en particulier le pointillisme et le symbolisme de mouvements qui ont contribué à définir la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Dans l'une des salles, vous rencontrerez des œuvres d'artistes qui ont expérimenté la technique du pointillisme, une méthode étroitement associée à Georges Seurat et Paul Signac. Cette technique, également appelée divisionnisme, consiste à appliquer de petits points distincts de couleur pure sur la toile. Lorsqu'ils sont observés à distance, ces points se mélangent dans l'œil du spectateur, créant une image unifiée. La beauté du pointillisme réside dans sa précision et son approche scientifique de la théorie des couleurs. Les artistes croyaient que cette technique permettait d'obtenir un effet plus vibrant et lumineux, apportant une intensité et une vitalité aux scènes qu'ils représentaient, qu'il s'agisse de paysages, de portraits ou de scènes urbaines. En parcourant cette partie de la galerie, prenez le temps d'observer la manière dont les couleurs se fondent et interagissent pour former une image, et comment la technique donne aux œuvres un sens d'énergie et de mouvement. Adjacent à ces œuvres, vous trouverez également des exemples du symbolisme, un mouvement artistique né en réaction contre le réalisme et le naturalisme du XIXe siècle. Le symbolisme cherchait à explorer le monde intérieur de l'expérience humaine, les rêves, les émotions, et le domaine spirituel, à travers des images riches et symboliques. Contrairement au monde précis et observable du naturalisme, le symbolisme se concentrait sur ce qui est mystérieux, abstrait et intangible. Les artistes utilisaient des allégories, des références mythologiques et des symboles poétiques pour transmettre des idées sur la condition humaine, infusant souvent leurs œuvres d'un sentiment de mystère ou de mélancolie. En observant ces pièces, vous remarquerez peut-être des scènes oniriques ou fantastiques, évoquant des sentiments de nostalgie, de désir ou d'introspection, ainsi qu'une mise en avant de la puissance émotionnelle de la couleur et de la forme. Passons maintenant à une figure clé dont le travail a profondément enrichi la Galleria di Arte Moderna, Emilio Gagliardini. Gagliardini était un artiste italien important dont les contributions reflètent les profonds changements dans l'art et la culture à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Son travail a fait le pont entre le réalisme et le modernisme, incorporant des éléments des deux, tout en explorant de nouvelles façons de transmettre l'expérience personnelle et l'émotion à travers son art. L'approche de Gagliardini a été profondément influencée par le groupe des Machiavelli et leur engagement à capturer le monde naturel, mais ses œuvres ultérieures ont commencé à s'éloigner de l'observation stricte de la nature, en se concentrant davantage sur le monde psychologique intérieur de ses sujets. Son utilisation de la couleur, du coup de pinceau et de la forme a commencé à transmettre non seulement le monde extérieur, mais aussi l'humeur et l'émotion de la scène. De cette manière, Gagliardini a pu fusionner réalisme et sensibilité moderne, offrant un aperçu du style en évolution de l'époque. Dans ses œuvres, vous remarquerez une riche utilisation de la couleur, une tendance au ton vif, et une mise en avant de la lumière et de l'ombre, qui étaient des éléments cruciaux dans le développement de la peinture moderne. Ces figures, qu'elles soient humaines ou paysagères, sont rendues avec une sensibilité à la lumière qui leur confère une qualité lumineuse, presque éthérée. Cette technique, combinée à son approche unique de la couleur, a donné à ses œuvres une énergie dynamique, un contraste frappant avec les compositions plus retenues qui dominaient les périodes antérieures. Prenez le temps d'apprécier la façon dont Gagliardini capture à la fois le monde physique et le paysage émotionnel. Ses peintures révèlent non seulement le sujet devant lui, mais aussi sa propre réponse interne à ce sujet. Cela rend son travail plus qu'une simple représentation de la réalité, c'est un reflet de la manière dont la réalité est ressentie et interprétée. L'héritage de Gagliardini réside dans sa capacité à capturer la tension entre la représentation et la profondeur émotionnelle, faisant de son travail à la fois un produit de son époque et un pas vers les expérimentations modernistes qui définiraient le XXe siècle. Sa contribution à la Galleria di Arte Moderna nous permet d'explorer la transformation de l'art en Italie, alors qu'il passait des traditions des Machiavelli vers l'expérimentation expressionniste qui marquerait le siècle suivant. Alors que nous arrivons à la fin de votre voyage à travers la Galleria di Arte Moderna, j'aimerais souligner une dernière salle qui occupe une place significative tant dans le musée que dans l'histoire culturelle de Florence, la Sala Bianca. La Sala Bianca, ou Salle Blanche, a été conçue à l'origine pour servir d'espace d'exposition pour l'art contemporain. Elle a été créée au milieu du XXe siècle pour accueillir une série d'expositions temporaires d'art, présentant à la fois des artistes italiens et internationaux. Le design épuré et minimaliste de la salle, dominé par des murs blancs et un éclairage soigneusement contrôlé, a été conçu dans le but explicite de permettre aux œuvres elles-mêmes de devenir le point focal. En éliminant toute distraction de l'environnement, la Sala Bianca offre un espace neutre et serein où les visiteurs peuvent s'engager profondément avec l'art exposé. Adjacent à ces œuvres, vous trouverez également des exemples du symbolisme, un mouvement artistique né en réaction au réalisme et au naturalisme du XIXe siècle. Le symbolisme cherchait à explorer le monde intérieur de l'expérience humaine, les rêves, les émotions et le domaine spirituel, à travers des images riches et symboliques. Contrairement au monde précis et observable du naturalisme, le symbolisme se concentrait sur le mystérieux, l'abstrait et l'intangible. Les artistes utilisaient l'allégorie, les références mythologiques et les symboles poétiques pour exprimer des idées sur la condition humaine, infusant souvent leurs œuvres d'une sensation de mystère ou de mélancolie. En observant ces pièces, vous remarquerez peut-être des scènes oniriques ou fantastiques, évoquant des sentiments de nostalgie, de désir ou d'introspection, ainsi qu'un accent mis sur la puissance émotionnelle de la couleur et de la forme. Passons maintenant à un personnage clé dont le travail a profondément enrichi la Galleria di Arte Moderna, Emilio Gagliardini. Gagliardini était un artiste italien important, dont les contributions reflètent les profondes transformations de l'art et de la culture à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Son travail a fait le lien entre le réalisme et le modernisme, en incorporant des éléments des deux, tout en explorant de nouvelles façons de transmettre l'expérience personnelle et l'émotion à travers son art. L'approche de Gagliardini a été profondément influencée par le groupe des Machiavelli et leur engagement à saisir le monde naturel, mais ses œuvres ultérieures ont commencé à s'éloigner de l'observation stricte de la nature, se concentrant davantage sur le monde psychologique intérieur de ses sujets. Son utilisation de la couleur, des coups de pinceau et de la forme commençait à transmettre non seulement le monde extérieur, mais aussi l'humeur et l'émotion de la scène. De cette manière, Gagliardini a réussi à fusionner le réalisme avec une sensibilité plus moderne, offrant un aperçu du style en évolution de l'époque. Vous remarquerez dans ses œuvres une utilisation riche de la couleur, une tendance au ton vif et un accent mis sur la lumière et l'ombre, des éléments cruciaux dans le développement de la peinture moderne. Ses figures, qu'elles soient humaines ou paysagères, sont rendues avec une sensibilité à la lumière qui leur confère une qualité lumineuse, presque éthérée. Cette technique, combinée à son approche unique de la couleur, donnait aux œuvres de Gagliardini une énergie dynamique, un contraste marqué avec les compositions plus retenues qui dominaient les périodes antérieures. Prenez le temps d'apprécier la manière dont Gagliardini capture à la fois le monde physique et le paysage émotionnel. Ses peintures révèlent non seulement le sujet qui se trouve devant lui, mais aussi sa propre réponse intérieure à ce sujet. Cela fait de son travail plus qu'une simple représentation de la réalité, c'est un reflet de la manière dont la réalité est ressentie et interprétée. L'héritage de Gagliardini réside dans sa capacité à saisir la tension entre la représentation et la profondeur émotionnelle, faisant de son travail à la fois un produit de son époque et un pas vers l'expérimentation moderniste qui allait définir le XXe siècle. Sa contribution à la Galleria di Arte Moderna nous permet d'explorer la transformation de l'art en Italie, alors qu'il passait des traditions des Machiavelli à l'expérimentation expressionniste qui allait marquer le siècle à venir. En avançant, la Sala della Grotticina présente un espace fascinant, nommé d'après ses décorations distinctes de « Grotticino », « Petite Grotte ». La salle est remplie d'une collection de porcelaines fines et d'objets décoratifs, reflétant l'amour des Médicis pour la collecte et la commande d'œuvres d'art provenant de toute l'Europe. Les détails complexes et l'opulence des objets exposés démontrent le goût raffiné des Médicis et leur désir de mettre en valeur non seulement leur richesse, mais aussi leur raffinement culturel et leur innovation artistique. Enfin, nous arrivons au Panello di Cosimo, une section dédiée à Cosimo I de Médici, le premier grand-duc de Toscane. Le Panello est un magnifique panneau qui met en lumière le règne de Cosimo et son influence sur le développement de Florence et de la Toscane. Le leadership de Cosimo y a été essentiel pour renforcer le pouvoir des Médicis dans la région, et sa richesse et son autorité sont magnifiquement affichées à travers des objets portant ses insignes personnels. Ces trésors offrent une compréhension plus profonde du rôle de Cosimo dans la transformation du paysage culturel et politique de Florence, faisant de cet espace une partie essentielle du trésor des grands-ducs. En parcourant ces pièces, vous découvrirez vraiment la grandeur et la sophistication qui caractérisaient la famille Médicis et leur règne sur Florence, tout en admirant l'exquise maîtrise artisanale et la vision artistique qui était cruciale pour leur héritage. En poursuivant notre exploration du trésor des grands-ducs, nous entrons maintenant dans la Sala dell'Udienza Pubblica, ou salle d'audience publique. Cette salle était le lieu des rassemblements officiels et cérémoniels, où le grand-duc tenait son cours, recevait les ambassadeurs et rencontrait les figures importantes de l'époque. C'était un espace conçu pour afficher le pouvoir et l'autorité de la dynastie des Médicis, ainsi que pour impressionner les visiteurs par la grandeur de la cour toscane. En traversant cette salle, prenez note des décorations somptueuses, telles que les plafonds ornés, les fresques et le mobilier élégant qui rappellent la signification cérémonielle de cet espace. La Sala dell'Udienza Pubblica reflète aussi l'approche des Médicis en matière de gouvernance et de diplomatie. Les objets et les œuvres d'art ici ont été soigneusement choisis pour projeter une image de pouvoir, de sagesse et de culture, permettant au grand-duc de communiquer son influence non seulement par les mots, mais aussi par le luxe et le raffinement qui remplissent la salle. Des épées cérémonielles aux tapisseries royales, chaque détail a été conçu pour renforcer l'image des Médicis en tant que dirigeant d'un État riche et influent. Ensuite, nous entrons dans la Sala Privata, ou salle d'audience privée, qui offre un espace plus intime, mais tout aussi impressionnant. Tandis que la Sala dell'Udienza Pubblica était destinée aux démonstrations publiques de pouvoir, la Sala Privata était réservée à des interactions plus personnelles, telles que des réunions privées et des audiences informelles avec des conseillers de confiance ou des membres de la famille. Cette salle reflète toujours la grandeur et l'élégance de la famille Médicis, mais avec une atmosphère plus discrète et personnelle. Les œuvres d'art et le mobilier ici donnent un sens du confort et du luxe, sans l'ostentation des salles publiques. La Sala Privata était l'endroit où le grand-duc pouvait traiter des affaires plus confidentielles, à l'abri des regards des courtisans et des dignitaires étrangers. Vous remarquerez sans doute la décoration plus intime, l'utilisation de tissus luxueux, des portraits de membres de la famille et des pièces de mobilier plus petites et détaillées. Cela offre un contraste fascinant avec la salle publique, offrant un aperçu de la vie privée de la famille Médicis. Enfin, en avançant vers la troisième salle d'État, nous rencontrons encore un autre espace majestueux qui met en valeur la richesse et l'influence des Médicis. La troisième salle d'État était utilisée pour les occasions les plus formelles, souvent pour recevoir des dignitaires de haut rang ou pour organiser de grandes célébrations et banquets. Cette salle est peut-être l'une des plus richement décorées du palais, avec de magnifiques fresques, des textiles luxueux et une gamme d'objets qui communiquent la suprématie politique et culturelle des Médicis. La troisième salle d'État démontre l'apogée du pouvoir et du prestige des Médicis durant leur règne sur la Toscane. Chaque détail, des grandes peintures sur les murs aux accents en feuilles d'or et aux lustres opulents, visait à laisser une impression durable sur les visiteurs. En admirant la salle, vous ressentirez la splendeur et la sophistication qui définissaient la cour des Médicis et leur rôle dans la transformation de Florence en un centre d'art, de politique et de culture à la Renaissance. À travers ces salles, vous pouvez mieux comprendre l'équilibre délicat des Médicis entre grandeur publique et discrétion privée, et comment leurs espaces étaient conçus pour refléter à la fois leur autorité et leur raffinement culturel. Maintenant, alors que nous atteignons les dernières salles du Trésor des Grands-Ducs, prenons un moment pour apprécier la Sala degli Avori o degli Reliquiari et la Sala dell'Ambra, qui contiennent certains des objets les plus complexes et précieux de la collection. Dans la Sala degli Avori o degli Reliquiari, vous trouverez une magnifique sélection de sculptures en ivoire, de reliquaires et d'autres objets cérémoniels qui appartenaient autrefois à la famille Médicis. Les pièces en ivoire exposées illustrent l'incroyable savoir-faire des artistes venus de toute l'Europe et au-delà, présentant des scènes détaillées et des figures délicates qui captent le haut niveau d'art de l'époque. Les reliquaires, des contenants utilisés pour abriter des reliques sacrées, sont tout aussi impressionnants, fabriqués avec des matériaux précieux tels que l'or, l'argent et l'émail, souvent ornés de pierres précieuses et de motifs complexes. Ces objets ne reflètent pas seulement la richesse et le statut des Médicis, mais aussi leur lien profond avec la foi catholique et l'importance qu'ils accordaient à la dévotion religieuse et à la cérémonie. Ensuite, nous entrons dans la Sala dell'Ambra, une salle qui présente une superbe collection d'objets en ambre. L'ambre, une résine fossilisée d'arbres, était très prisée pour sa couleur chaude et sa beauté naturelle, et elle était souvent utilisée pour créer des pièces décoratives, des bijoux et des objets de luxe. Dans cette salle, vous découvrirez des objets qui témoignent du goût raffiné des Médicis et de leur appréciation pour la beauté naturelle. Les pièces en ambre sont exposées aux côtés d'autres objets luxueux, y compris des objets dorés et de superbes sculptures miniatures. Chaque pièce met en avant l'engagement des Médicis pour l'artisanat de qualité et le monde naturel, et elle est un témoignage de leur rôle de grands mécènes des arts et de collectionneurs de matériaux rares et magnifiques. En admirant ces derniers trésors, je vous encourage à prendre un moment pour observer l'incroyable détail et la beauté de ces artefacts. N'hésitez pas à apprécier les textures, les couleurs et l'artisanat qui rendent chaque pièce unique. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de votre visite du trésor des Grands-Ducs. Au nom d'Youtour, je tiens à vous remercier de nous avoir accompagnés aujourd'hui et d'avoir exploré le Palazzo Pitti avec nous. Nous espérons que vous avez apprécié l'expérience et que les guides audio ont été informatifs et enrichissants. Si vous avez passé un bon moment et trouvé la visite utile, nous apprécierions vraiment un avis sur l'application où vous avez réservé. Vos retours nous aident à nous améliorer et permettent aux futurs visiteurs de vivre la même expérience merveilleuse que vous. Encore une fois, merci d'avoir choisi Youtour. Nous espérons que vous passerez un moment mémorable à explorer Florence et tous ses magnifiques trésors culturels. Au revoir, et nous vous souhaitons tout le meilleur pour la suite de votre voyage.